name of the song, Bad Luck City.
Lord, and all the people don't know about that, cause see, I've never been there, but I've been there and I know. A lot of time you love them women and they don't love you, but I have one and I love the one I have. That's why I tell her every morning when I wake up, I sat down and tell her these words.
Vous êtes bien à l'écoute de la maison de disque sur le 94 MHz de Canal B. Salut Juliane.
Bonjour à tous et à toutes et bonjour Antoine.
Oui, salut tout le monde. Une des dernières émissions de cette fin d'année 2025. On prend la direction du Mississippi. Je rappelle un peu la genèse de cette émission, même si j'imagine que maintenant... Le monde entier connaît la maison de disques.
On est dans tous les tops Spotify, Deezer et tout.
Je même pas regarder. Non, c'est faux. Donc la maison de disques, toutes les deux semaines, on se réunit pour vous parler de labels indépendants. Donc c'est le jeudi à 18h, rediffusion le samedi à 16h. Et là, on va parler ce soir d'un label assez légendaire quand même. Je pense probablement peut-être un des plus légendaires qu'on ait fait depuis le lancement de cette émission. Alors il y a eu K-Records quand même aussi, il y a eu Secretly Canadian qui est aussi quand même un label. Mais là on est dans la légende aussi parce que c'est un label qui s'est construit sur la volonté d'éditer des personnes un peu inconnues au bataillon, notamment sur la scène blues du Mississippi. Voilà, donc je vous propose qu'on débute en vous donnant quelques éléments historiques autour du label. Donc c'est un label Fat Possum Records qui a été créé en 1991. D'ailleurs, on le précise, on va faire deux épisodes sur ce label, un qui nous emmènera de 91 à 2010 et un autre qui nous emmènera donc de 2011 à 2025. Label créé en 91 par Peter Redverse Lee et Matthew Johnson. Ils étaient tous les deux étudiants à l'université du Mississippi. Peter est parti assez vite finalement. À l'époque, il est resté jusqu'en 94, donc les trois premières années. Et c'est surtout Matthew Johnson qui a vraiment lancé le label avec une idée assez simple, ce que je disais tout à l'heure, mettre en avant la scène musicale locale du Mississippi, celle des bars dans lesquels de nombreux bluesmen venaient se produire et n'avaient jamais, pour certains, jamais sorti de disque, ni même mis les pieds dans un studio de musique. Et ça, c'était vraiment l'essence même du label, avec ce dicton qu'ils utilisaient, c'était « Not the same old blues crap », qui se traduit par « pas la même vieille merde de blues ». En gros, à l'époque, il y avait beaucoup de choses qui sortaient, j'imagine, dans le blues, mais eux, ils allaient chercher des têtes brûlées quand même, hein, parce qu'on en reparlera
oui,
tout à l'heure.
Ouais.
Il y en a quelques-uns quand même où voilà, tu sens que c'était le vrai blues du Mississippi, celui à la dure, on va dire. Voilà, et donc je te propose qu'on débute, alors sauf si tu veux rajouter quelque chose peut-être sur le label.
Oui, non, juste reparler du nom Fat Possum,
oui,
donc, comme son nom l'indique, gros opossum, oh. Et donc ce nom, ils en sont pas forcément fiers, je sais pas si t'as vu ça, parce qu'en gros ils pensaient vraiment que le label allait pas marcher, donc ils ont mis une blague en nom. Mais sauf qu'une fois que t'as une étiquette qui est collée, tu vas pas dire coucou, le label change de nom. Donc ils sont gardés ce.
Ah, j'avais pas vu que ça leur plaisait pas, parce que. Voilà.
Non, bah maintenant, la blague, vu que maintenant ils sont connus et tout, je pense que
oui.
Ça leur va, mais au début, quand ça a commencé un peu à marcher, c'était un peu. Mince, c'était une blague qui continue de nous coller. Au basket.
En précisant que le possum, c'est en anglais, enfin c'est un rongeur en fait, du
oui.
Coup, un petit rongeur. Et le logo d'ailleurs du label, c'est la tête d'un rongeur qui fouille dans une poubelle de mémoire, je crois.
Je crois.
Voilà.
Ce qui est peut-être comme ça qu'il se voyait à l'époque.
Tout à fait.
Donc ouais, bah on va commencer en musique, et pour commencer en musique, je pouvais pas passer à côté de la diffusion d'un morceau, quand j'ai un peu exploré sur Discogs les sorties de ce label, un morceau qui est pour moi l'un des plus grands tubes indie des 30 dernières années. Tu vois, là, je pose vraiment les choses.
Okay.
Donc sans suspense, il s'agit du morceau, et je pense qu'on est beaucoup à le penser, Golden Apples de Country Teasers. Donc Country Teasers, groupe post-punk, art-punk et country sur les bords originaires d'Édimbourg en Écosse. Donc on t'a introduit sur le côté Mississippi blues et je vais sur du post-punk écossais.
Tu vois, mais c'est pas grave, on en passera tout à l'heure, on reparlera du côté
blues
plus tard.
C'est un groupe que j'apprécie particulièrement, qui est dans une lignée très proche de groupes comme The Fall, qui vraiment se base sur des contre-rythmes, des sons discordants, mais voilà, c'est vraiment un super groupe. Alors moi je parle pas très très bien anglais, mais le peu de trucs que j'ai pu traduire, c'est vraiment des paroles assez... ironique, il se moque gentiment de la société. Donc, en 1999, le groupe a sorti ce superbe album qui s'appelle Destroy All Human Life sur Fat Possum Records. Alors, c'est un album assez lo-fi, mais plutôt doux. Auparavant, le groupe faisait vraiment des trucs très anarchiques, très brutistes. Et là, ils se sont vraiment mis à faire des choses plus douces, plus mélodieuses, vraiment plus posées. Pourtant, le titre de l'album, vous l'avez bien entendu, c'est Destroy All Human Life. Donc, je pense que j'ai pas besoin de traduire. Ça veut dire anéantir l'espèce humaine. Et c'est très marrant, parce que je le savais pas. J'ai découvert en préparant l'émission, le chanteur Ben Wallers a eu l'idée de ce titre après avoir perdu un match de cricket. Et ça l'avait particulièrement mis en colère.
Ouais, très mauvais
et
joueur.
Du coup, il avait une haine profonde contre l'humanité après cette défaite au cricket. Ouais. Il y a plein de choses. Ouais.
Voilà, chacun ses combats.
Ouais, voilà. Donc c'est le titre de l'album, mais paradoxalement c'est l'album, comme je disais, le plus doux. C'est aussi un album, alors ça, on commence par ça, mais qui est sorti en 1999, et j'ai vu que c'était un peu le tournant de Fat Possum, qui a sorti un peu moins de blues et a commencé à s'ouvrir vers d'autres contrées. Et bah, je propose qu'on écoute ce morceau absolument fantastique. Je vous rappelle, c'est Golden Apples de Country Teasers.
Won't you lend your lungs to me? Mine are collapsing. Plant my feet and bitterly breathe up the time that's past. Breath I'll take and breath I'll give. Pray the day's not poised. Stand among the ones that live in lonely indecision. Fingers walk the darkness down. Mine is on the midnight. Gather up the gold you found, you fool, it's only moonlight. And if you stop to take it home, your hands will turn to butter. Better leave this dream alone, try to find another. Salvation sat and crossed yourself and called the devil partner. Wisdom burned upon a shelf, who'll kill the raging cancer? Seal the river at its mouth, take the water prisoner. Fill the sky with screams and cries, bathe in fiery answers. Jesus was an only son and love his only concept. But strangers cry in foreign tongues and dirty up the doorstep. And I for one and you for two ain't got the time for outside. Keep your injured looks to you, we'll tell the world that we tried.
Peut-être avez-vous reconnu la superbe voix de Townes Van Zandt, qui est une des figures les plus sombres et les plus poétiques de la musique folk country américaine. C'était le morceau Lungs, qui est tiré d'une réédition du label Fat Possum Records, d'une réédition de 2007, l'album original étant lui-même de 1969, et c'est un album éponyme. Que dire de ce personnage tourmenté, qui a eu une vie extrêmement difficile et qui pour autant a sorti le peu d'albums qu'il a sortis sont absolument magnifiques. En fait, il y a presque rien à jeter. C'est il y a beaucoup de génie dans le songwriting de Townes Van Zandt. Il a été influencé par Robert Frost, par Walt Whitman notamment, pour citer côté un peu poème, forcément par Dylan aussi. Et en fait, il a eu une période très très courte finalement de reconnaissance, mais aussi parce que il a multiplié les addictions, héroïne, alcool, cocaïne, et du coup, c'est ce qui fait que sa carrière a été très très courte. À l'époque, il a même été, alors c'est ce que j'ai lu, découvert par Elvis Presley. Il a découvert lui Elvis Presley à l'âge de 12 ans et c'est ce qui lui a donné envie de faire carrière et de faire de la musique. Tu connaissais du coup, j'imagine
Un petit peu, ouais. Je me pose une question. Il est mort ?
Ah oui, il est mort depuis. Alors il est décédé.
J'avais des indices quand tu nous as donné son mode
de vie. En 1997, à seulement 52 ans, et le jour de l'an, le 1er janvier 1997. Voilà. Et du coup, il y a eu même une anecdote sur les droits d'auteur. C'est-à-dire qu'à un moment, il a été totalement dépendant aux addictions, qu'il a vendu les droits d'auteur de ses disques pour $20. Donc est-ce que c'est à ce moment-là que Fat Possum a récupéré, je ne sais pas, mais en tout cas Fat Possum a réédité un certain nombre de ses disques, voilà, et ils ont réédité à plusieurs reprises. Alors maintenant je ne sais pas s'il n'y a pas une histoire de fondation derrière tout ça, okay. Où une partie des fonds retourne en tout cas à sa famille, à une fondation. En tout cas, moi, je trouve que tout est à aller écouter. Je sais même pas quoi vous dire sur quel album à aller écouter. Pour moi, ils sont tous superbes. Donc, plongez-vous dans la discographie. Si je devais en mettre un peu plus en avant, c'est The Late Great Townes Van Zandt, du coup. Il en a enregistré 6 en tout. Voilà. Donc courez, écoutez, mais je pense que si je devais faire un rebond avec un, enfin plutôt vous retourner vers une autre émission, le Tri Sélectif avait fait une excellente émission sur Teinte Vincent, le Tri Sélectif qui est diffusé le dimanche de 19h à 20h sur Canal B, Antoine qui fait cette émission, et donc vous pouvez aller réécouter le podcast, vous aurez une tranche de vie de ce personnage.
Ouais. Moi j'ai découvert parce que dans... à Paris, dans un bar que j'aimais beaucoup fréquenter, au fond du bar, ils avaient fait une hôtel sur Teinte Vincent, parce que les patrons en étaient absolument fans.
Bah, ça m'étonne pas.
Et on va enchaîner avec Blaze Foley, de son vrai nom, Michael David Fuller, une figure de la folk d'Austin, et comme je le dis à chaque fois, vu qu'on est des professionnels, un très bon ami de Teinte Vincent. Voilà. Donc, Blaze Foley, c'est une figure, enfin une figure maudite, de la folk américaine. Alors pareil, le gars a eu une vie assez folle. Il a commencé la musique très très jeune au sein de... En fait, il avait un groupe familial, un groupe de gospel familial qui déambulait un peu partout dans le Texas. Et c'est là, je pense, où il a développé une voix que je trouve très chaude et parfaite pour cette sorte de country folk qu'il a fait par la suite. Donc pour résumer un peu sa vie, il vivait sans domicile fixe, vivant dans sa voiture chez des amis, passant son temps apparemment à boire, et j'ai mis à boire avec son compagnon d'infortune, Teinte Vincent. Il était surnommé dans sa ville d'Austin, « The Duct Tape Messiah », soit le messie du ruban adhésif, en grande partie de cause de son affinité pour cette matière qu'il reconnaît, et aussi que c'était un matériel qui lui permettait de rafistoler tous ses vêtements et donc de ne pas en racheter. Mais apparemment, il était bardé de ruban adhésif, donc c'est... une histoire à la fois assez triste, mais c'est quand même assez drôle de se faire appeler le messie du ruban adhésif. Voilà, donc sa vie s'est terminée très tragiquement en 1989. Il a reçu un coup de fusil en tentant de s'interposer dans une dispute entre un de ses amis sans-abri et le fils de celui-ci. Donc voilà, c'est une vie avec mille histoires. Il y a même eu un film sur sa vie qui est sorti en 2008 qui s'appelle Blaze. Et donc il y a... plein de choses à dire, et Teinte Vincent a dit de lui, après sa mort, parce que donc tu me disais que Teinte Vincent, 87, que, attends que je retrouve, que Blaze était un génie que personne n'écoutera avant qu'il soit mort, et je crois que c'est un peu ce qui s'est passé, parce que bah, Fat Possum, pareil, a réédité des compilations de plein de choses qu'ils ont pu retrouver sur Blaze Foley, et c'est à partir de ce moment-là que tout le monde a commencé à parler de Blaze Foley, et on parlait de la vie de Blaze Foley, je fais une petite aparté, on en parlait hors antenne, c'est aussi, il y a eu quand même, il me semble avoir lu ça, certaines critiques sur Fat Possum à un moment donné, de sortir beaucoup de disques de blues, de country, de personnages un peu fracassés par la vie, mais de leur côté de valoriser ça, quoi. Donc c'est ce qui est pas, enfin c'est pas très chouette de valoriser que, enfin... On peut toujours avoir cette discussion, mais valoriser des parcours cassés pour vendre des disques, c'est pas... Voilà. Ça peut être un peu gênant. Si tant est quand même, Fat Possum a sorti donc plusieurs albums de Blaze Foley, donc c'est des chansons très country folk qui représentent pour moi tout ce que j'aime dans ce style, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une guitare, d'une belle voix, on a besoin de rien d'autre, et juste avec ça, on te sort des morceaux super mélodieux et surtout qui sont emprunts d'énormément d'émotions. Et moi, c'est vraiment quand j'ai écouté cette chanson de Blaze Foley, ça m'a enrobé d'une émotion, et là, plus rien n'existe à côté, et je vous propose qu'on écoute ce morceau dont je vous parle depuis tout à l'heure, que j'aime beaucoup, c'est The Moonlight Song de Blaze Foley. Moonlight shining through the trees, moonlight shining lights away for lovers in the dark. Moonbeams dance on rain-drenched trees, sparkle for our eyes to see. Moonlight shine on down and shine. Moonlight bathes the woods around, paradise that we have found, here among the trees and things we love. Shines on friends all far away, takes us to another day. Moonlight shines. Shine on me.
laying with the one I love, looking at the moon above, being where we really want to be. The autumn winds for now are still, the moon shines on.
Vous êtes toujours à l'écoute de la maison de disques sur le 94 MHz de Canal B. On continue de décrypter la période 1991-2010 du label Fat Possum Records, le label américain. Et à l'instant, c'était le morceau Feel So Good 2 de Junior Kim Bruth. Alors j'ai triché un peu. parce que je crois que la réédition sur Fat Possum, elle était... Ah si, remarque, non, j'ai pas triché, elle est de 2009. L'album, il s'appelle First Recordings. En fait, il a été initialement enregistré en 1966.
Ah, t'as triché, 1966, c'est pas dans notre...
Alors, la... bah, c'était la même chose pour... bref, il a été réédité puisque Junior Kim Bruth, ça fait partie vraiment des figures du label Fat Possum Records, avec R.L. Burnside également. Puisque c'était un peu la mission de base que voulait avoir Fat Possum Records, c'était de mettre en avant des bluesmen sortis de nulle part, en tout cas qui jouent plutôt dans les rades en bas de chez eux, mais qui ont une voix incroyable, ce qui est le cas de Junior Kim Bruth, voilà, qui est né en 1930 à Hudsonville, dans le Mississippi. En fait, il a passé la majorité de sa vie à cultiver la terre, à pêcher et à chanter du blues dans les petits bars locaux, alors qu'on appelle les Juck Joints, je sais pas si t'as lu ce terme-là, non. J-U-K-E. Junk Joint, c'est vraiment des endroits, des petits rades sur voilà, de la terre battue et où les mecs viennent jouer du blues, boire et s'alcooliser et faire tout ce que faisaient les hommes à l'époque dans ces contrées-là pour occuper leur temps, malheureusement. Et voilà, il a été inconnu pendant plus de 40 ans. Et il avait enregistré First Recordings en 1966 dans des studios à Memphis, les American Studios, Il y avait même eu une production d'un certain Quinton Clouch, et en fait le disque n'est jamais sorti. C'était ça aussi l'époque, c'était assez horrible je trouve, d'emmener des gens dans un studio, de les faire enregistrer, de leur faire un peu miroiter que ça va sortir, et puis en fait bah non, il n'y a pas de producteur, il n'y a personne pour sortir le disque, et finalement ça retombe et rien ne sort, voilà. Et donc du coup c'est là où Fat Possum est intervenu et effectivement a fait ressortir des disques. Et en fait son tout premier disque, il avait 62 ans. Celui vraiment qu'il a enregistré avec Fat Possum, il avait 62 ans. C'était en 1992, donc la deuxième année du label. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'après, ils ont essayé d'aller chercher des vieilles bandes. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on se disait hors antenne tout à l'heure, ça fait aussi partie de la chose un peu bizarre autour de Fat Possum, c'est que lui, c'était aussi un sacré personnage. Il revendique la paternité de 36 enfants, donc ça donne à peu près... voilà, c'était pas la même époque, mais quand tu dis que la personne avait 36 enfants, c'est potentiellement autant de femmes qui ont été laissées à élever leurs enfants par elles-mêmes. Donc c'était... Voilà, ça fait partie du blues, on est d'accord, de l'histoire du blues, mais ça reste toujours très délicat, je trouve, à raconter ce genre d'histoire.
Oui. Et ça peut être a posteriori critiquable,
tout à fait.
Ce genre de valorisation et de parcours comme on en parlait hors antenne. On reste aux États-Unis, on enchaîne avec The Fiery Furnace, un groupe donc américain basé à Brooklyn qui est composé de deux frères et sœurs, Matthew Friedberg et Eleanor Friedberger. Ah oui, j'ai dit Friedberg, mais c'est Friedberger je pense, et Eleanor Friedberger. On est sur un groupe, donc l'album est sorti en 2006 sur Fat Possum Records, donc là ils ont commencé à un peu ouvrir leurs écoutilles, les gérants de Fat Possum, à sortir des groupes donc un peu plus indie rock, même hard rock, et aussi la chanteuse c'est Eleanor Friedberger, donc ça fait une voix féminine sur le label. Voilà, donc c'est un groupe que j'aime beaucoup. Ils font des très bons morceaux qui ont un avantage que je trouve assez bien, c'est qu'il n'y a pas le combo classique couplet-refrain, ils ne connaissent pas. Donc parfois c'est quelque chose que j'aime beaucoup, écouter des chansons basiques couplet-refrain, mais eux ils ne connaissent pas du tout. On est vraiment sur des changements assez brutaux au milieu des morceaux, ça saute de style, d'instruments, de paroles, de façon de chanter, enfin voilà, c'est vraiment une sorte de bricolage, t'as l'impression de bout mis bout à bout, mais ça donne quelque chose que je trouve très très bon. Il y a un côté, il y a une audace dans ce qu'ils font, de se permettre des choses, parfois même limite mainstream dans leurs morceaux, mais ça passe bien. Voilà, donc le groupe, ils ont sorti la plupart de leurs disques chez les Anglais de Rook Street Records, mais comme je le disais, il y a cet album de 2006 qui s'appelle Bitter Tea, qui est un album que j'aime beaucoup, qui est sorti aux États-Unis sur Fat Possum. Voilà, donc c'est l'album qui est un peu plus... Il y a encore plein de choses expérimentales, mais que c'est lui où ils ont... Tu sens qu'ils se sont un peu affinés, ils se sont dit, peut-être si on trouve un petit équilibre entre ce qu'on aime faire et ce qui passe le mieux à la radio et tout ça, on pourrait peut-être marcher. Et c'est vraiment ça, un album qui a fait que le groupe a bien marché. Alors j'ai lu pas mal de choses sur cet album, et j'ai lu qu'ils utilisaient un effet qu'on appelle le backsmacking. Alors je connaissais pas du tout ce que c'était, et j'ai toujours pas compris, donc je vais donner ce que c'est, et on verra. C'est des pistes jouées à l'envers.
Ok.
Voilà. Bah, tu vois, toi aussi.
Donc tu les enregistres à l'endroit, mais tu les diffuses à l'envers.
Bah, je pense que c'est ça, mais j'arrive pas vraiment à comprendre ce que ça peut donner à mon oreille sur l'album. Je vois pas à quel moment il y a ça. Bon, voilà, j'ai des compétences techniques limitées. Et bah, je vous propose qu'on écoute un morceau de cet album, Bitter Tea. C'est le morceau Nevers, donc de The Fiery Furnace.
There's a town I know called Nevers, no Nevers. Never was and was what it was when it was in once new Nevers, new Nevers. Nothing never I'll ever learn. There's a village I visit that's vaguely, sort of vaguely, vaguely as I seem to recall, though it's unclear, clearly, vaguely, very vaguely. Can say it's been there once and for all. I put back on my overshoes and got in my Renault. The trips we set so I'm unsure. of where it is to go. But then it hits me slap, I've left it off my map.
Stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember how sweet it used to be? Just one sound that I just
À l'instant, le morceau I Can't Stand the Rain de Dan Peebles, qui est sorti en réédition en 2009 sur le label Fat Possum Records, avec une version originale qui date de 1974. Anne Lee Peebles, c'est une voix légendaire du soul de Memphis. Elle a participé à l'âge d'or du label High Records aux côtés de Al Green et O.V. Wright. Elle est née en 1947 dans le Missouri. Et elle fait vraiment partie des femmes de cette scène-là qui ont vendu énormément de disques et qui ont redoré le blason soul féminin. Et c'est une des principales, voire même une des seules artistes féminines à avoir sorti un album sur cette période 1991-2010, en tout cas une des seules productions que le label a mis en avant. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure en antenne, s'il y avait une critique à faire de Fat Possum Records, alors qui, de manière très louable, a essayé de mettre en avant des vieux bluesmen un peu inconnus. Donc ça, c'est en partie louable de se dire, voilà. Par contre, à côté de ça, quand on cherche le nombre d'artistes féminines du label sur cette première période, et ben en fait, on les compte sur les doigts d'une main. Et d'ailleurs, ça a fait l'objet d'une critique dans une recherche d'un chercheur américain, un musicologue, qui a écrit une thèse sur la présence des femmes dans les labels américains et qui avait ciblé Fat Possum Records comme étant un label ayant produit très peu, sorti très très peu de disques de femmes. On a entendu tout à l'heure une voix féminine. Moi, j'ai trouvé ce disque-là et j'ai trouvé un autre morceau, une reprise de Cat Power sur une compilation du label. Le reste, c'est Peanuts, il n'y a rien d'autre. Donc c'est quand même... Petit teaser pour la prochaine émission, on se rattrapera pour la deuxième période 2010-2025, où là, il y a effectivement beaucoup plus de voix féminines, de projets portés par des femmes, et c'est tant mieux. Et juste pour raconter l'histoire de ce morceau, I Can't Stand the Rain, en fait, en 73 à Memphis, Anne Lee Peebles allait sortir avec son mari Don Bright, pour aller voir un spectacle et un concert, et en fait il s'est mis à pleuvoir très très fort, à tel point qu'il pouvait pas sortir de chez eux parce qu'ils y allaient à pied. Et elle a dit je ne supporte plus la pluie, on rentre et je vais écrire un morceau. Et en fait elle s'est mise derrière le piano et elle a écrit le morceau, et le lendemain matin elle était en studio et elle sortait le 45 tours. voilà l'histoire de ce morceau.
Merci la pluie, du coup, parce que le merci morceau était pluie. Excellent, donc c'est
tout à fait.
On continue avec un groupe que j'ai beaucoup beaucoup écouté durant ma jeunesse, mais non, c'était il y a une quinzaine d'années. C'est les Smith Westerns, un groupe originaire de Chicago, composé des frères Cullen et Cameron O'Mori, de Max Kakacek, de Julian Edrich et de Al James. Donc c'est un groupe qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui, mais je ne savais pas du tout. Il y a deux des membres qui ont formé le groupe Whitney, qui est un groupe qui est quand même assez gros maintenant.
Qui vient de sortir un nouvel album.
Qui vient de sortir un nouvel album.
Je n'ai pas écouté encore.
Il y a deux membres des Smith Westerns. Donc les Smith Westerns, ils ont sorti trois albums en 4 ans, entre 2009 et 2013, et je les ai vraiment tous aimés pour des raisons différentes. On a le premier, dont je vais un peu plus vous parler, qui est très lofi, et les deux autres, où vraiment, à chaque fois, ils ont été plus produits, mais pas trop. Ils sont allés vers des choses mélodieuses, indie, très recherchées, avec toujours des très belles voix. Donc voilà, il y a vraiment une évolution sur ces trois disques, et en les réécoutant les trois d'affilée quasiment, je me suis dit, mais en fait, peut-être s'ils en avaient fait un quatrième, ça aurait été encore plus produit et ça aurait commencé à devenir chiant. Donc, pour présenter un peu Smith
Westerns... C'est marrant, on savait pas trop à la fin, ça aurait devenu... T'aurais pu dire super et non, tu es chiant.
Ouais, c'est mon problème avec trop de production.
J'ai le même.
Donc, il y a quelque chose de très, très glam chez Smith Westerns, je trouve. Alors, c'est marrant parce que j'en ai pas passé, mais j'ai vu aussi que T-Rex, le groupe glam par excellence, a été réédité par Fat Possum sur certains albums. Donc, voilà, ça me fait un peu plaisir que Smith Western, que j'associe à cette scène glam un peu des années 2010, soit sorti sur ce label. Donc le premier album dont je veux plus précisément vous parler, c'est un album qui est sorti sur Ozark Records à la base. Donc Ozark Records en 2010, 2009, c'est un énorme label du tout début du garage, du revival garage qui va tout exploser. Et donc ce premier album des Smith Western n'a bénéficié d'aucune promo, il n'y a même pas eu de clip, mais il a cartonné. Et donc c'est Fat Possum qui a très vite ressorti le disque. Donc je ne sais pas comment ils se sont arrangés avec Ozark, qui ne pouvait peut-être plus financièrement reproduire des disques. Et donc c'est Fat Possum qui a reproduit l'album. Alors c'est un album qui est très lofi. Il faut savoir que le groupe l'a enregistré à la maison. Ils avaient 16 ou 17 ans avec le matériel qu'ils trouvaient un peu à droite à gauche. Donc c'est tout ce qu'on veut, c'est lofi, débraillé, brut, saturé. Mais quand on enlève cette couche qu'on pourrait croire volontaire, parfois on pourrait croire vraiment qu'ils défoncent leurs morceaux volontairement, mais c'est juste qu'ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Vous allez voir, il y a des mélodies glam pop, j'appelle ça, absolument fantastiques. Et je vous propose qu'on écoute un morceau que j'aime beaucoup. Il s'appelle Boys Are Fine des Smith Westerns.
Yeah.
À l'instant, le morceau de Sony and the Sunset, le morceau Too Young to Burn, qui est sorti en 2010 sur l'excellent disque Tomorrow is Alright. Ça chantait dans le studio, ça bougeait de la tête, parce qu'effectivement, on est
énorme
un peu...
tube.
Ouais, on est assez fans tous les deux de Sony and the Sunset, qui a sorti un certain nombre de disques. Alors, comme tu disais aussi en antenne tout à l'heure, il y a eu les débuts un peu plus lofi, très inspirés à la fois par les années 50 dans certains morceaux, par du psyché et du garage, par du rock expérimental. Et donc j'aime bien ces groupes là qui font un espèce de bloogly-boulga de tout ça et qui t'en sortent un truc excellent, avec quand même du coup la voix de Sonny Smith, qui est le leader du groupe, qui est quand même une voix assez incroyable, musicien de San Francisco, dont on a parlé d'ailleurs dernièrement. Je ne sais pas si tu te rappelles, alors on va voir si tu suis. Est-ce que tu sais que Sonny Smith, il a un label? On en a parlé, tu te rappelles pas? J'ai passé un morceau et le disque avait été réédité sur un autre label, un label qui s'appelle Rocks in Your Head Records, et du coup c'est le label de Sonny Smith,
okay.
Qui a pas sorti grand chose, il sort surtout ses propres disques dernièrement, mais voilà, il a créé son propre label. Que dire de plus, mis à part jetez-vous dans leur discographie. Alors forcément, ce disque-là, moi, ça reste Tomorrow is Alright, ça reste un de mes préférés, celui de 2010. Je crois que le dernier, il date de 2023-2024 et qui est un peu plus folk, un peu plus posé, mais qui s'écoute tout aussi bien.
Et entre-temps, il a fait des albums solo sous le nom de Sonny Smith aussi.
Oui, donc, ouais. Il a. Bon, faut aller fouiller.
Faut suivre.
C'est exactement, faut suivre. En tout cas, ce style un peu vintage, côte ouest, avec. En fait, quand t'écoutes un peu les paroles, c'est assez sordide, les paroles, à la fois drôles et sordides. Mais allez écouter Sonny and the Sunset si vous ne connaissez pas encore.
Et j'ajouterais que moi, j'ai eu la chance de les voir deux fois en live. Et c'est le genre de concert où t'as l'impression qu'il s'est rien passé, mais en fait tu t'es pris pendant une heure de la musique trop bien jouée. Tu dis bah ouais, en fait c'est pas besoin d'être costumé pour que le concert soit bien. Voilà, c'est une référence à une discussion qu'on avait hors antenne. Et on enchaîne tout de suite avec un artiste que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Andrew Bird.
Tu connais pas Andrew Bird?
Ah, je m'en doutais. Donc Andrew Bird, pour le présenter un peu, c'est un multi-instrumentiste, chanteur, auteur, compositeur américain qui a débuté très jeune en faisant de la musique jazz, mais qui a connu un immense succès, parce que vraiment on peut parler d'immense succès, ça fonctionne pour lui, avec des albums qu'on pourrait classer dans une veine plus indie folk, je dirais. Voilà, je parle vraiment sous ta... sous ton haut patronage, Antoine. Là.
C'est indie folk, si, on peut le mettre dans cette catégorie-là, tout à fait.
Donc, il a sorti 16 albums studio, pas mal d'albums live, plein d'EP, et deux de ces albums sont sortis sur Fat Possum Records. Alors, moi, j'appelle ça de l'indie folk, mais j'ai l'impression que d'album en album, il peut aller vers d'autres styles assez différents, et voilà, mettre des petites touches de plein de choses. Donc, moi, j'ai vraiment découvert en préparant l'émission, et c'est un album, alors si je dis pas, tu me dis si je dis des bêtises, qui est un peu son album qui l'a aussi fait connaître médiatiquement.
Ouais.
Voilà.
Les deux premiers en fait sur Fat Possum, okay. C'est ça.
C'est,
qui,
donc ouais. L'album, je donne son titre, Noble Beast. Alors ça, moi, c'est, j'en parlais un peu avant, c'est un album que je trouve ultra sophistiqué, mais qui tombe pas dans quelque chose de trop pompeux et de trop. Je veux faire quelque chose de joli. Voilà, c'est un album qui est beau, mais c'est, il y a du naturellement beau. On sent qu'il n'y a pas trop d'artifice dans sa musique, j'ai l'impression, et c'est assez plaisant. C'est un album, alors ça c'est mon petit romantisme, qui est parfait pour des promenades automnales, je trouve. Il se marie très bien avec les feuilles mortes. Il y a beaucoup de violon, je crois que c'est son instrument de prédilection.
Tout à fait.
Du violon qui est en plus utilisé de toutes les façons sur l'album. Parfois on a clairement des solos de guitare, mais vraiment des solos de guitare, mais faits avec un violon. Donc c'est assez surprenant. Il utilise aussi différentes techniques qui ne sont pas que de jouer avec un archet. Enfin voilà, il fait plein de choses avec son violon. Et il y a aussi, et ça c'est une question que j'avais, puisque tu connais mieux sa discographie, il y a aussi pas mal de sifflements sur cet album. Est-ce que c'est un truc habituel chez lui?
C'est un excellent siffleur. Okay. Il sample ses sifflements sur certains albums, il fait des boucles avec avec son violon. Il a aussi cette habitude de sampler son violon et de faire des boucles avec son violon. Voilà, il a quelques petits talents C'est pas par hasard qu'il est devenu très connu quand même maintenant.
Okay. Bon, juste s'il siffle beaucoup, ça doit être chiant si t'es son voisin. Mais bon,
non, bah, il vit après, en pleine campagne, je crois. Bien.
Donc, Noble Beast, album sorti en 2009 sur Fat Possum. Et je vais vous passer un morceau. Il m'a fallu 25 secondes pour me dire c'est ce morceau. L'introduction est vraiment fantastique. J'ai vraiment beaucoup aimé ce morceau. Il s'agit du morceau Tenuousness, donc d'Andrew Bird.
Tenuous at best was all he had to say when pressed about the rest of it, the world that is. From Proto-Sanskrit Minoans to Portocentric Lisboans, Greek Cypriots and Habesots who hang around, it holds a lot on. Uh-huh. But here's the thing, start getting weird watching this man who scratched the beard to home. To the mines, the sharpened axes, brush up on the Uralic syntaxes. Love of hate, axes and axes, love of hate, axes and axes. Oh, oh, first it wanes and then waxes. Tenuousness less seven combs to three. Them you was plus eleven. Thank the heavens for their elasticity. And as for those who live and die for astronomy. Fudge, always written, oh, when to stand, oh, when to sit. Can't stand to stand, can't stand to sit. Who would want to know this? Click, click, click. Well, who wants to look upon this? Well, who wants to look upon this?
Et voilà, donc c'était Andrew Bird, tu découvres le travail.
Plein de choses à découvrir.
Ouais, enfin, moi je t'enverrai des petits tips des meilleurs albums. Donc cet épisode sur le label Fat Possum Records, la période 1991-2010 touche à sa fin. On se retrouvera le 25 décembre.
Ouais.
Le 25 décembre, le jour de Noël, pour vous parler de la deuxième partie du label. Bon, le podcast sera dispo si vous n'êtes pas capable d'arrêter votre repas de Noël. Donc,
vous pouvez le diffuser pendant le repas. Hein.
Vous pouvez le diffuser pendant le repas.
Faire découvrir la maison de disque à l'intégralité de votre famille.
Quelle bonne idée. On fera la deuxième période. 2010-2025. Et on va finir par... moi, je suis trop content de pouvoir passer Adam Green. Je crois que c'est la première fois que je me dis « Ah bah tiens, Adam Green, je peux passer Adam Green à l'antenne. » Parce que il a, sur les labels, il a été sur Roof Trade, il a été sur...
Est-ce que t'en avais pas passé dans une de nos émissions un peu Best Of ?
Si, Best Of l'année dernière. Ah. Ouais, tout à fait. Ou en début d'année.
Tu veux dire vraiment dans une maison...
Oui, dans une maison de disques.
Voilà. Okay.
Et donc, effectivement, il a sorti deux disques sur Fat Possum, dont celui... alors, qui sont pas ses meilleurs, hein, soyons très très clairs. Mais là, moi, je l'ai réécouté, celui-là. En fait, je pense qu'Adam Green, ça fait vraiment partie des artistes. Vu que j'adore sa voix, je me dis, bon, en fait, j'aime bien sa voix. Et du coup, j'aime bien quand il sort des morceaux, alors que parfois, les morceaux sont peut-être pas extraordinaires au niveau de la compo. En tout cas, je n'en dirai pas plus. Mis à part que, bien entendu, c'est le cofondateur de The Moldy Peaches avec Kimia Dawson, qui a été un des pontes de la scène anti-folk de l'époque. Et que donc son album s'appelle Minor Love, il est sorti en 2010. Et le morceau que moi je vais vous faire écouter, c'est Castles and, Tassels. Et il ne reste plus qu'à te dire au revoir, des bisous.
Des bisous.
À bientôt, bonne fête de fin d'année.
Bonne fête de fin d'année.
Profitez bien, pas trop d'alcool, pas trop d'excès. Enfin, faites ce que vous voulez en fait.
Ouais.
Des bisous, ciao.
Bisous.
Was born in a murderous fashion. The ass of the business class was his passion. And number by hustle, he numbered his muscles. Honor by honesty fell down upon us. And everybody's acting like they've heard something back from my baby Emil. Castles and tassels and flatulent assholes, I love you always. Standing in the sunlight, some might say that her hair was falling down from the building that day. The silvery ball was down by the bridge, and she used to take pills in the woods where she lived. And everybody's acting like they've heard something back from my baby Emilio. Castles and tassels and flatulent assholes, I love you always. The man you scorned is self-revived. He hides his reproach with a hollow pride. And everyone's a ghost as the lesson dies. And it's fun to be a dirty son. And one day at the bottom of the hill where they played, she lost the gold coin and the troll would not trade her. They say she lost a fortune and she lost it to hurt him. Then he grew despondent 'cause she would not desert him. He laid out his hand and said, make me an offer. Then she asked the troll for just how much did it cost her.
You got to have money, you got to have money.
Then he told the troll that you've got to have money.
You've got to have money, you've got to have money.
Girl, you tell your daddy that he's got to have money. And castles and tassels and flatulent assholes. And you've got to have money, you've got to have money. Castles and tassels and flatulent assholes.